en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Dans le cadre du colloque Les Frères Rénac, qui s'est déroulé le 22 et 23 juin 2007 sous l'égide de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Canal Académie vous propose d'écouter la communication de Dominique Muliez, directeur de l'École française d'Athènes, intitulée « Les Rénac et l'École française d'Athènes ». Écoutons Dominique Muliez devant les académiciens et de nombreux invités en grande salle des séances.
Sur la plaque de marbre où l'on a gravé le nom des membres de l'École française d'Athènes lors de la célébration du centenaire de l'institution, le nom de la famille Rénac figure à deux reprises. Sous l'année 1879 pour Salomon Rénac et sous l'année 1908 pour son neveu Adolphe Joseph. Il a déjà beaucoup été question de Salomon Rénac. Son parcours à l'École française d'Athènes a fait l'objet de plusieurs articles parus sous la signature d'Hervé Duchesne, en attendant une biographie annoncée que rend possible l'ouverture des archives Salomon Rénac à la bibliothèque de la Méjane à Aix-en-Provence. Je n'aurai donc pas l'outrecuidance de reprendre ici devant vous le détail de ce parcours, sinon pour faire connaître des archives jusqu'aujourd'hui demeurées inédites et conservées à l'École française d'Athènes, des archives qu'un classement méthodique entrepris depuis plusieurs années rend désormais accessibles. Elles complètent, nuancent ou éclairent un cheminement déjà bien établi. Ces archives de l'École française d'Athènes concernent encore deux autres membres de la famille Rénac. Théodore Rénac, tout d'abord, qu'il faut ici évoquer dans la mesure où il faut un collaborateur, sinon régulier, du moins actif de l'école, mais aussi parce que l'École française d'Athènes conserve quelques pièces d'un dossier célèbre, je veux parler de la tiare de Saïtapharnès. Il se trouve en effet que le fonds Charles Picard, conservé à l'École française d'Athènes, contient un dossier réuni par Théodore Rénac sur cette affaire qui avait terni la réputation de son frère. Il faut ensuite évoquer Adolphe Rénac, plus directement mais si brièvement lié à l'École française d'Athènes. Outre des carnets et des notes qu'il rédigea du temps où il était en Grèce, l'école possède encore un dossier réuni par Charles Picard et qui rassemble des témoignages à l'occasion du décès du jeune savant au premier mois de la Première Guerre mondiale. L'arrêté portant nomination de Salomon Rénac comme membre de l'École française d'Athènes porte la date du 30 octobre 1879. Il a satisfait alors aux épreuves du concours qui a eu lieu quelques jours plus tôt et sa réussite ne faisait guère de doute aux yeux de Paul Foucard, alors directeur de l'École française d'Athènes et ancien professeur de seconde de Salomon Rénac au lycée Fontane, futur lycée Condorcet. Il lui écrit en effet à la fin du mois de septembre pour l'avertir de la date du concours et lui prodiguer ses conseils que l'on ose à peine reproduire dans cette enceinte. « Ne vous préoccupez pas du grec moderne, comme vos deux anciens vous l'apprendrez à Athènes. Quant au reste de l'examen, le meilleur moyen de vous y préparer, écrit Paul Fougard, c'est de vous reposer, de faire de l'exercice et pour le moment de laisser complètement de côté votre traduction du manuel. Je regarde d'avance votre examen comme passé convenablement et j'examine ce que vous avez alors à faire. » Les conseils que prodigue Paul Foucard pour une meilleure hygiène de vie ne sont apparemment pas inutiles. Salomon Rénac est épuisé par des années d'études et d'efforts intellectuels. Concours d'entrée à l'École normale supérieure en 1876, licence la même année, agrégation de grammaire qu'il termine au premier rang en 1879, un mois avant de passer avec succès le concours de l'École française d'Athènes, le tout étant accompagné d'une activité éditoriale soutenue. Paul Foucard fait allusion à cette activité éditoriale en mentionnant le manuel de philologie classique d'après le Triennium Philologicum de Freund et les derniers travaux de l'érudition, ouvrage qui paraît en 1880. Dans ce travail, par ailleurs parfois mal reçu des spécialistes, se manifestent comme les prémices de ce qui caractérisera une partie de l'œuvre de ce savant, une volonté pédagogique, le souci de faire œuvre utile, qui chez lui se traduisent par le goût de la taxinomie et surtout la propension à l'encyclopédisme et au savoir universel. En effet, la philologie, telle que l'entend Salomon Rénac, est une discipline envahissante. Jules Girard la présente ainsi lorsqu'il fait hommage de l'ouvrage à l'Académie. Pour Monsieur Rénac, la philologie comprend non seulement les sciences grammaticales et les études comparées linguistiques, non seulement la critique des textes et la critique littéraire, mais l'histoire, y compris l'histoire des sciences, mais une partie de la philosophie, mais l'archéologie tout entière, paléographie, épigraphie, métrique, musique et orchestrique, archéologie de l'art, étude des institutions et de mœurs, enfin mythologie et religion. C'est une encyclopédie presque complète. Et Jules Girard, qui présente l'ouvrage devant l'Académie, conclut « Si l'on songe que M. Reynac était encore il y a 6 mois à l'école normale, qu'il y a laissé les souvenirs les plus honorables et en est sorti en remportant un brillant succès au concours de l'agrégation, on reconnaîtra ce que son livre atteste de puissance de travail et de méthode et ce qu'il contient de promesses d'avenir. » Sans doute, pour reprendre la formule de Georges Radet, le meilleur agrégé n'est-il que l'espérance d'un bon Athénien. Mais en l'occurrence, les promesses d'avenir ont été largement tenues. Nommé en même temps que le géographe Marcel Dubois, qui fut avec Paul Vidal de la Blache l'un des artisans de la renaissance géographique en France après son séjour en Grèce, Salomon Reynac ne gagna toutefois pas immédiatement Athènes et manifesta même quelques hésitations. Il y avait tout d'abord une raison purement conjoncturelle. Edmond Potier rapporte que Ernest Berceau, alors directeur de l'école normale supérieure et auquel Salomon Reynac était fort attaché, se mourait d'un cancer à la face et voulait garder le jeune chercheur auprès de lui à l'école. Pendant les derniers mois de 1879, Salomon Reynac y remplit donc les fonctions de sous-bibliothécaire. Berceau mourut le 1er février 1880 et Reynac, après avoir refusé un poste de maître de conférence à Douai, se décida à partir pour Athènes. Mais dans ses réticences, il y avait aussi chez lui le sentiment que son passage à l'école normale supérieure lui créait des obligations et la crainte qu'en n'exerçant pas le professorat, il passât, comme il le disait, pour un universitaire de contrebande. Il s'en ouvrit à Paul Foucart, qui apaisa ses scrupules et lui exposa, je cite, que pour faire œuvre utile, il faut se tourner vers le terrain et exploiter du matériel inédit. Enfin, Salomon Reynac pouvait n'être pas insensible à d'amicales pressions. On lui faisait valoir la dureté de la vie qu'il attendait en Grèce, alors même qu'il était épuisé. On y parle même d'exil. Fin novembre 1879, Lucien Lévy-Brulle lui écrivait ces mots. « Tu pars pour Athènes. Tu devais partir. Cela devait être dès le jour où tu es entré à l'école, dès le jour où tu as songé à y entrer. » Mais le tableau pessimiste que tu me fais de la vie que tu vas mener serait effrayant si tu disais tout. Mais sur ce point encore, Paul Foucart, avec une autorité toute paternelle, fit voir au jeune Salomon Reynac combien il profitera d'un séjour à Athènes. « La vie de l'école d'Athènes, écrit-il, est beaucoup plus active et vous sera bonne. Le mélange d'études et de voyages vous remettra et le climat est très sain. » Nommé donc en octobre 1879, Salomon Reynac n'arrivera à Athènes qu'au mois de mars 1880. À cette date, l'usage du voyage en Italie de 2 ou 3 mois, inscrit dans les statuts de 1859, a été rétabli. Salomon Reynac séjourne à Rome, Villa Médicis, mais conforme à son habitude, il met ardemment à profit ce séjour. Le 19 mars 1880, on fit en effet lecture à l'Institut d'une lettre d'Auguste Geoffroy, directeur de l'École française de Rome, qui rendait compte des travaux de Salomon Reynac, qui avait, au cours de son court séjour à Rome, entrepris une fouille dans un terrain appartenant à sa famille, dans la zone des thermes de Trajan, aux abords de la Domus Aurea. Lorsqu'il arrive à Athènes, l'école, installée dans ses locaux de la rue Didot depuis 7 ans, sort de ce que Georges Radet a appelé le triennat d'Albert Dumont de 1875 à 1878, une période déterminante pour l'évolution de l'institution et marquée par 2 innovations majeures. Je cite Georges Radet. « Jusqu'ici, la petite colonie athénienne ne s'était proposée que l'éducation intellectuelle de ses membres. » Son point de vue avait été purement subjectif, elle avait servi la science, mais subsidiairement et par surcroît. Albert Dumont procéda d'autre sorte. Il pensa qu'il fallait travailler d'abord au progrès de la science, le reste, la culture des intelligences, en devant résulter par la force des choses. Son point de vue devint nettement objectif. Il entrait naturellement dans cette évolution la rivalité avec l'Institut allemand qui avait été fondé en 1873. Et c'est Georges Radet encore qui écrit « La mission française ne pouvait laisser sa rivale accaparer et diriger seule le mouvement archéologique. Elle ne pouvait davantage, sans compromettre sa dignité, la copier servilement. » Albert Dumont institue donc des séances dans le cadre d'un institut de correspondance hellénique. Il crée le bulletin de correspondance hellénique, qui en est l'organe, et il se fait l'artisan décisif de la création de la bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, instituée par décret du 26 novembre 1874. Bref, c'est Albert Dumont qui fait de l'école un institut scientifique. Lorsque Salomon Reynac arrive à Athènes, c'est son ancien professeur de seconde, Paul Foucard, qui est à la direction. Il a été nommé en 1878. Vous avez ici une représentation de Paul Foucard de 1911. Si je la montre, c'est que c'est un dessin dû à Salomon Reynac lui-même. Le détail des missions que va remplir Salomon Reynac est connu et a déjà fait l'objet d'exposés détaillés. Il dénote une inlassable activité et de cet ensemble foisonnant, je ne retiendrai que les grands traits. Quelques mois après son arrivée à Athènes, Salomon Reynac partage avec Edmond Potier la responsabilité de la fouille de la nécropole de Myrina. Georges Radet ne craint pas d'écrire que les 6 campagnes myrénéennes de 1880 à 1882, complétées par les recherches secondaires de Salomon Reynac à Quimet et de Michel Clerc à Éguet, sont le plus beau titre de gloire de la 4e direction de l'école, celle de Paul Foucard. La photographie que vous avez ici représente un autoportrait de Salomon Reynac, au moment de la fouille de Myrina. Il mena donc cette fouille avec Edmond Potier, ici croqué également par Salomon Reynac. Les fouilles commencèrent le 10 juillet 1880. Salomon Reynac les mena jusqu'au 20 août aux côtés d'Edmond Potier, qui continuera seul jusqu'au 4 octobre. Le rapport publié dans le bulletin de correspondance hellénique fait état de 965 tombes ouvertes du 10 juillet au 4 octobre avec une moyenne de 10 ouvriers. L'exposé de la méthode qui ouvrait le chapitre 2 de la publication est clair. En fouillant la nécropole de Myrina, notre but, écrivait Edmond Potier et Salomon Reynac, n'a pas été seulement de découvrir des spécimens authentiques des terres cuites d'Asie. L'exploration méthodique des tombeaux nous en ferait encore un autre intérêt. On ne peut pas dire qu'une nécropole grecque ait encore fait l'objet d'une exploration méthodique. Et nous avons lieu d'espérer que les observations recueillies à Myrina pendant 3 années de fouilles, sur un nombre de 4 à 5 000 tombeaux, seront bien accueillis des archéologues. Il s'agit donc tout à la fois d'analyser une production de terres cuites et d'Asie mineure, mais aussi de les replacer en contexte. Il est probable que dans ce duo Edmond Potier et Salomon Reynac, l'inspiration archéologique émanait principalement d'Edmond Potier plus que de Salomon Reynac. En témoignent les échanges épistolaires et les reproches amicaux que Potier adresse à Reynac pour n'avoir pas établi un enregistrement systématique des données au moment de la fouille, ou encore pour avoir brouillé le classement du matériel entrepris par Edmond Potier en regroupant tous les bras ensemble, toutes les jambes ensemble et toutes les têtes ensemble. On sait les événements qui mirent fin à l'exploration du site de Myrina. La mort d'Alphonse Verriès, qui avait succédé en 1882 à Edmond Potier et Salomon Reynac pour diriger le chantier et qui meurt à Smyrne le 5 décembre 1882 d'une fièvre typhoïde. Une autre raison, c'est la modification de la réglementation turque. En lieu et place du partage des trouvailles fixé par la loi en 1874 et qui prévoyait un tiers pour l'État turc, un tiers pour le propriétaire du terrain et un tiers pour l'inventaire, un nouveau règlement promulgué le 21 février 1884 interdit absolument l'exportation des antiquités et met toutes les dépenses des fouilles à la charge des explorateurs sans leur concéder aucun droit de propriété sur les objets découverts. Dans ces conditions, conclut Edmond Potier et Salomon Reynac, il fut jugé impossible de recommencer les travaux. Salomon Reynac n'échappe pas toujours dans son exploration archéologique à la tentation de la chasse au trésor, comme en témoigne le périple qu'il effectue à partir du milieu du mois d'août 1880 jusqu'au 1er octobre, abandonnant la suite de la fouille de Myrina à Edmond Potier. L'organisation de ce périple dans les archipels est largement aidée par les interventions de son frère Joseph, mais aussi par la fortune paternelle. Ce périple, dont Hervé Duchesne a rétabli le détail à partir d'archives déposées à Lyon, le mène de Salonique au Pirée en longeant la côte micrasiatique. Les étapes ont nom Abder, Maronée, Einos, Imbros, Lesbos, Alagas, Myrne, Théos, Éphèse, Patmos, Iasos, Kos, Kalymnos, Astypaleia, Théra, Amorgos et Mélos. De ce périple, Salomon Rénac ramène une moisson d'articles et une moisson d'antiquités achetées ou emportées et dont plusieurs rejoindront le musée du Louvre, en particulier une tête d'Éphèbe acquise à Kos et l'inscription des bannis de Iasos. Ce n'est pas sans intention, en tout cas, que Salomon Rénac, dans ses tout premiers contacts avec le commandant en chef de la division navale du Levant, avec qui il voyagera, l'interroge sur le transport des marbres. Après avoir passé le premier semestre de l'année 1881 à la fouille de Myrina, puis un séjour en France, notamment à la suite d'une typhoïde contractée à Smyrne, Salomon passe 8 jours dans la région de Kavala en mars 1882. Il revoit des inscriptions copiées par ses prédécesseurs et s'efforce de s'en faire présenter des nouvelles. Nous en avons conservé quelques copies dans les archives de l'EFA. Puis, à l'été 1882, il participe à la fouille de Delos, dont l'école a entrepris l'exploration en 1873. Et les dessins que vous allez voir sont extraits d'un carnet qui a été conservé dans nos archives. Son passage est marqué par la mise au jour de l'établissement des Poséidoniastes de Byrytos. Il fouille également la région du monument aux Hexagones, découvre le Galate blessé, fouille la région de l'Inopos et se consacre au théâtre. De ce séjour, donc, nous gardons, vous l'avez ici un extrait sous les yeux, un transcrit d'après le carnet original, daté de novembre 1904 à janvier 1905. Le carnet original comptait 125 pages, dont on a retenu principalement les copies d'inscriptions. Et puis, il y avait un carnet de croquis où se mêlent des dessins comme celui-ci, qui est un relevé du théâtre au moment où Salomon Rénac entreprend des fouilles, et aussi un certain nombre de sculptures conservées à Mykonos. En voici quelques exemples, qu'il s'agisse de rhombos, de reliefs, de graffitis, d'inscriptions rupestres, mais aussi de personnages, de portraits, de contemporains de la fouille, comme ce dessin ici de son compagnon Verriès, avec qui il partagera la fouille de Myrina, mais aussi un certain nombre de personnages comme Cavadias, comme Campanis, un aide de Cavadias, ce médecin militaire, ou un certain nombre de domestiques, de bateliers qui étaient à Mykonos ou à Delos, et dont Salomon Rénac a croqué le portrait. Il est à noter que les indications qui figurent sur ce carnet conservé dans les archives de l'École française d'Athènes, au crayon vert difficilement lisible, sont souvent postérieures au séjour même que Salomon Rénac fit à Delos, puisque sur ce portrait, par exemple, on voit le nom de Constantin le batelier, Delos, noyé 1883, alors que le séjour date de 1882. Domestique à Delos, et ce gosse de Mykonos qui a été croqué au moment d'un séjour de Salomon Rénac sur l'île de Mykonos. Je vous présente ici quelques-unes des photographies par ailleurs d'inscriptions que Salomon Rénac a pu copier au moment où il était dans la baie de Kavala. Vous voyez que c'est des inscriptions qui sont copiées au dos d'un papier à lettres à l'entête de l'hôtel des États-Unis à Paris. En septembre 1882, Salomon Rénac rend visite à Verriès qui dirige la fouille de Myrina et qui meurt 2 mois plus tard de la fièvre typhoïde. Salomon Rénac reparaît à Imbros dans le courant du mois d'octobre et rapporte de cette dernière île toute une série d'actes émanés des clérouques athéniens et des achats pour le Louvre signalèrent ses rapides excursions. Ses voyages, ses déplacements ne l'empêchent pas de publier en 1882 encore une note de topographie athénienne et en 1883 une note sur la chronologie d'Athènes. C'est à la fin de l'année 1882 qu'il quitte Athènes et l'École française d'Athènes. L'ensemble de ses expériences feront ultérieurement naturellement l'objet de mentions dans ses chroniques d'Orient, dans son manuel d'épigraphie. L'ensemble de ses déplacements nourriront des articles. Ce n'est pas à dire pour autant que Salomon Rénac fut toujours pour son directeur un membre scrupuleux ou soumis. Plusieurs sujets vont être source d'agacement mutuel entre Paul Foucart, le directeur, et Salomon Rénac. Lors des fouilles de Myrina, par exemple, Salomon Rénac songe plus au Louvre qu'à l'École française d'Athènes. Et Paul Foucart doit lui rappeler que les statuettes de Myrina, dont une part revient aux fouilleurs, appartiennent de droit pour un tiers à l'école, qui ensuite, mais ensuite seulement, en fera don au musée du Louvre. Mais il est vrai aussi que Salomon Reynac, ayant parfois servi de banquier en consentant des avances pour financer la fouille, pouvait se considérer quelques droits sur la destination du matériel. Autre sujet de discussion, la croisière dans l'archipel. Il faut noter que c'était une initiative propre aux jeunes membres. Le directeur n'en avait pas été informé et n'avait pas été associé au projet. Il faut bien que je les suive puisque je suis leur chef, disait Le Drurolin. Il faut bien que je l'approuve puisque je suis son directeur, aurait pu dire Paul Foucard, un peu agacé par l'esprit d'indépendance du jeune membre, même s'il voyait dans ce voyage dans l'archipel une bonne occasion d'assurer le transport des figurines de Myrina vers Athènes. Et puis, il y eut l'affaire désolante du piano dans l'hiver 80 qui contribue à ce climat d'agacement. Salomon Reynac, recevant Rudido et en l'absence du directeur alors en France, il fait la fête, joue du piano dans les appartements du directeur. Il en est un petit scandale que Paul Foucard apaisera finalement. Il en subsistera une grande rancœur. Il reste d'ailleurs de cette distance critique dans la notice que Salomon Reynac consacra à Paul Foucard lorsque celui-ci décéda le 19 mai 1923. Sous couvert de jugement objectif, il se livra à quelques attaques en règle comme pour liquider un passif à un moment peut-être peu opportun pour ce devoir d'inventaire. Je ne dis rien de la façon dont il évoque la figure de son professeur de seconde, sinon cette formule « faire la classe l'ennuyer et il ennuyait sa classe ». Je ne dis rien non plus des jugements qu'il portait sur la thèse de Paul Foucard. C'est un chef-d'œuvre de bon langage et de solide savoir, mais l'opinion qu'il y développa paraît étroite et force. Je ne dis rien de son jugement sur les mystères d'Eleusis. Le jugement le plus sévère intervient sur le devoir qu'avait Paul Foucard de publier les copies et estampages de Lebas pour la Grèce et les îles. Après avoir signalé comme un incise que les 224 pages sur deux colonnes sont interrompues au milieu d'une phrase, Salomon Reynac pose la question « Pourquoi Foucard ne continua-t-il pas cet utile ouvrage ?» Et il donne la réponse, c'est qu'il fut nommé membre de l'Institut. Le degré franchi, il renversait l'escabeau. C'était un savant réaliste et utilitaire, il n'en a pas donné que cette preuve-là. Chaque phrase qui se veut l'explication de la précédente accentue le trait et grossit la charge. Quant à la direction à l'École française d'Athènes, elle fait l'objet d'un jugement plus ou moins mitigé. Paul Foucard, en effet, est d'abord présenté par Salomon Reynac comme le restaurateur, après Dumont, de l'École française d'Athènes. Mais plus loin, Salomon Reynac reproche au directeur d'avoir pris le contre-pied de Dumont, d'isoler l'école du monde extérieur. L'Institut de correspondance hellénique cessa immédiatement de tenir ses séances. Et de mon temps, poursuivit Salomon Reynac, son seul plaisir était de se promener au Lycabette et, circonstance aggravante, souvent avec l'épigraphiste Köhler, directeur de l'école allemande, et dit « lithoboliser des chiens ». Comme représentation du génie français à l'étranger, c'était peu. Peu diplomate, savant peu aimable, brouillé avec bon nombre de ses confrères, rétif à toute œuvre collective, sont autant de traits ajoutés au portrait. Mais probablement que le fond de la relation entre Paul Foucard et Salomon Reynac est ici. « Il me parlait toujours, écrit Salomon Reynac, comme si j'étais encore son élève de seconde. Quand il allait trop loin, je lui rappelais le serment hippocratique qui m'interdisait de répondre à mon maître sur le même ton. Cela ne manquait pas de le calmer. » Salomon Reynac avait probablement besoin de l'école pour se fournir un titre ou parfaire un parcours. Il n'en avait peut-être pas besoin pour poursuivre ses travaux et son périple dans les archipels de l'Égée le montre amplement. En tout cas, il avait trop claire conscience de son talent pour supporter la férule du directeur. Outre les amitiés nouées à l'occasion de son séjour, en particulier avec Edmond Potier et aussi avec Charles-Joseph Tissot, qui fut déterminante pour son avenir, Charles-Joseph Tissot était alors ministre de France à Athènes, il le fut ensuite à Constantinople, Salomon Reynac trouva toutefois une occasion de marquer son attachement envers l'école lors des célébrations du 50e anniversaire de sa fondation. Il prend en effet à cette occasion l'initiative d'organiser une croisière dont il soumet le projet dans la revue archéologique en 1895. Il propose une promenade à Delphes suivie d'une grande fête panhellénique à Délos. Salomon Reynac avait fouillé à Délos, on s'en souvient. Quant à Delphes, la grande fouille de 1892 à 1902 battait son plein. Même si la célébration du centenaire fut reportée, le projet de croisière fut maintenu et 200 passagers s'embarquèrent pour cette croisière archéologique sous la houlette de Salomon Reynac, Paul Monceau l'accompagnant. Reynac proposa aux voyageurs des conférences sur Delphes, mais ce fut Théophile Homol, directeur de l'école et responsable de la fouille, qui fit visiter les vestiges dans le sanctuaire d'Apollon. Pour le reste, l'œuvre, la carrière de Salomon Reynac s'identifie alors à d'autres institutions et à d'autres champs disciplinaires dont il a déjà été question ou dont il sera question ici. Pour reprendre une formule d'Hervé Duchesne, quand Salomon Reynac quitte Athènes, Reynac l'Athénien va devenir Reynac l'Africain. De Théodore Reynac et de son rapport aux travaux de l'École française d'Athènes, Annie Bélis a déjà parlé en évoquant Théodore Reynac et la musique antique. D'autres ont également évoqué ces rapports. On pourrait rappeler les contributions au bulletin de correspondance hellénique avec 14 articles publiés dans cette revue. Si j'évoque de nouveau cette figure, c'est dans son rapport à la trop célèbre affaire de la tiare de Saïtapherness qui a terni l'image de son frère Salomon Reynac, à qui on a fait porter injustement le poids d'un achat trop rapide. On a retrouvé dans le fond Charles Picard conservé à l'École française d'Athènes une partie du dossier qu'avait constitué Théodore Reynac. Des tirages à part que lui avait adressé Héron de Villefosse, qui était le conservateur, une lettre signée de Kampfen, directeur des musées nationaux et de l'école du Louvre, remerciant Théodore Reynac d'avoir mis à la disposition du musée la somme de 100 000 francs réunis par ses soins en avance pour permettre l'acquisition, lettre accompagnée d'un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil des musées nationaux où a été décidée à l'unanimité l'acquisition de la tiare. On y trouve encore le rapport Dendorf, daté du 26 février 1896, une version manuscrite du rapport von Stern sous la forme d'une conférence faite au 10e congrès archéologique à Riga le 2 août 1886 et intitulée « La contrefaçon des objets d'art antique au sud de la Russie ». On y trouve aussi, vous avez ici une photographie de la première page du rapport Dendorf, on y trouve aussi la trace des interventions de Théodore Reynac dans l'enquête confiée à Clermont-Ganneau en 1903. Il a été autorisé par Clermont-Ganneau à faire passer à Roukoumovski, l'auteur de la tiare, toute une liste de questions auxquelles il a répondu. Ces questions ont été transmises par Edmond Potier, Théodore Reynac n'ayant pas accès lui-même à la commission. On en possède la lettre qui l'accompagne, cette lettre que vous avez sous les yeux est une lettre de Théodore Reynac adressée à Edmond Potier. On a le brouillon et les questions que Théodore Reynac souhaitait poser au faussaire. On possède également les réponses telles que Edmond Potier les a consignées à la suite de la réunion de la commission. On a surtout conservé un brouillon assez développé dans lequel Théodore Reynac se livre à un bilan provisoire de l'affaire dans laquelle il conclut « J'ai feuilleté longuement son dossier, pris connaissance de ses calques, il s'agit du dossier et des calques de Roukoumovski, vu et étudié les échantillons de son savoir-faire, je suis aujourd'hui édifié. » Je crois devoir mentionner ces documents ici qui sont conservés à l'école parce que sans nécessairement éclairer d'un jour nouveau le détail de l'affaire, ils doivent désormais être versés au dossier. C'est encore Salomon Reynac qui servira de lien vers Adolphe Reynac, le fils unique de Joseph, qui faisait donc parfois suivre son prénom de celui de son père. Né en 1887, il est recruté comme membre hors cadre de l'École française d'Athènes dès 1909, et la rubrique que lui consacra son oncle lorsqu'il mourut retrace son parcours. Salomon, en l'occurrence, paraît servir de mentor. Comme deux de ses oncles, écrit-il, s'occupaient déjà de l'Antiquité, j'essayais d'abord de le diriger vers l'étude du Moyen-Âge. Mais il aima mieux suivre mon exemple que mes conseils. Un long voyage en Grèce qu'il fit à 18 ans avec M. Fougère le décida à vouer sa vie aux choses de ce pays. À l'instar de son oncle, Adolphe Reynac eut une activité inlassable. Dans le premier rapport où il est mentionné, le premier rapport de l'École française d'Athènes où il est mentionné dans les crailles, on sent même poindre, comme pour son oncle, une forme de léger agacement dans la description de son activité. Membre libre de l'école d'Athènes, M. Adolphe Reynac a largement usé de sa liberté, écrit le rapporteur. chargé au lendemain de sa nomination de rechercher en Angleterre, dans les musées publics et les collections privées, les monuments de tout ordre qui ont jadis été enlevés à Delos, il établit d'abord son quartier général à Londres, puis il fait une longue campagne d'Égypte, vient en Grèce au début de l'été, visite Delphes, l'Étolie, la Carnanie et l'île de Delos. Partout, il travaille et découvre. En Égypte, il choisit et se réserve à Coptos un beau champ de fouilles. À Delos, il révise toutes les signatures des sculpteurs. Entre-temps, il rédige de longs articles pour le bulletin et maintes autres revues. Souhaitons, conclut le rapporteur, que pour faire au nom que portent avec lui deux de nos confrères, M. Adolphe Reynac mène tous ses travaux à bonne fin, avec le plus grand ordre et peut-être moins de fièvre. De façon moins mordante, le rapport de l'année suivante évoque un jeune chercheur dont, je cite, « l'insatiable curiosité et la débordante activité se sentent à l'étroit dans les limites du monde grec ». C'est bien un peu la même critique que l'on retrouve sous la plume de son oncle. « Il avait formé, écrit-il, des projets qui auraient rempli plusieurs vies. Je lui reprochais souvent de travailler trop vite, de ne pas assez soigner ce que nous appelons la rédaction. Il me répondait qu'il ne croyait pas avoir longtemps à vivre » et qu'il voulait faire connaître ses idées, fût-ce avec quelques précipitations. En 1909, il intervient sur le site de Delos. En 1910, il passe à Naxos, nous en possédons un carnet, et visite pour la première fois l'île de Thasos avec Charles Picard. Nous en avons conservé un carnet de notes, et le mémorandum, dont vous avez la couverture sous les yeux, avec le nom d'Adolphe Reynac et Charles Picard, un mémorandum où sont consignés un certain nombre de relevés, de dessins, d'inscriptions, de reliefs qui ont été accomplis par les deux chercheurs au cours de cette première exploration de l'île, les fouilles ne commençant que l'année suivante. On a conservé également des carnets de séjour, de voyage, et l'on retrouve bien ici le caractère fiévreux et un peu désordonné de l'écriture, ce goût dont on parlait ce matin de tout décrire, puisque vous avez ici l'exposé, le récit d'une excursion où sont consignés à chaque heure, chaque quart d'heure, ce qui est visité et les sites qui sont traversés. 1911, donc, c'est la première année des fouilles à Thasos. La même année, il travaille également à Lato. Je n'y reviens pas, on en a déjà parlé. Mais son temps d'école fut bref, puisque Adolphe Reynac dut rentrer en France en octobre 1911 et y rester une année entière pour raisons médicales, avant de reprendre des recherches sur d'autres terrains, recherches vite interrompues par la guerre. C'est le premier membre de l'école française d'Athènes qui meurt au cours de la Première Guerre mondiale, à la fin du mois d'août, il est tué dans les Ardennes, et je rappelle la citation, le lieutenant Adolphe Joseph Reynac, cavalier, aspire à changer d'arme et sert à pied, mais le 30 août à la ferme des Tyrannes, il remontera à cheval, dit sa citation dernière, en un péril urgent, pour mieux entraîner à l'assaut quelques volontaires, permettant ainsi, nous apprend-on, à un bataillon de se maintenir sur ses positions. L'école française d'Athènes célébra la mémoire de ceux qui étaient morts pour la patrie, et au discours de Charles Picard, directeur de l'école, répondit alors celui de Monsieur de Billy, alors ministre plénipotentiaire. Dans les faits, les liens avec les Reynac avec l'école française d'Athènes n'excèdent à guère le temps de leur séjour en Grèce, pour des raisons historiques pour le premier, parce que les sites n'avaient pas encore créé de ces permanences que l'on connaît aujourd'hui, mais aussi parce que son esprit ne pouvait être contenu de façon tout entière dans cette forme de recherche. Probablement en aurait-il été de même pour Adolphe, mort prématurément. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de Dominique Muliez intitulée « Les Reynac et l'école française d'Athènes » dans le cadre du colloque « Les frères Reynac » qui s'est déroulé le 22 et 23 juin 2007 sous l'égide de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.